Sylvain Maréchal, projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Aux chefs de maison, aux pères de famille et aux maris. Qui plus que vous doit sentir la nécessité et l'urgence de la loi dont le projet vous est adressé est soumis à votre prudence. Les bons ménages deviennent rares, et c'est vous les premiers qui portez la peine des préjugés et des abus qui ont envahi l'éducation des femmes. Vous tiendrez donc la main à ce règlement. Il vous intéresse plus peut-être encore que les femmes qui en sont l'objet principal. Les puissances mâles et femelles du bas empire de la littérature vont s'agiter à la promulgation de la présente loi. On prononcera malédiction sur le législateur indiscret et téméraire. Déjà en but aux prêtres, comment n'a-t-il pas craint de leur donner les femmes de lettres pour auxiliaires? La coalition des femmes de lettres et des prêtres est une rude chose. Mais que pourra-t-elle si les bons esprits, si les têtes saines opposent leur égide et placent cette loi sous le bouclier de la raison. Les bonnes mères de famille, les excellentes femmes de ménage, les épouses sensibles, les jeunes filles naïves et toutes naturelles, vengées enfin du méprisant abandon où on les reléguait, sauront peut-être quelque gré aux rédacteurs de cette loi et rendront justice à la pureté de ses intentions. Nous ne sommes point dupes, s'écrieront quelques flatteurs des femmes, des ménagements qu'on prend ici pour faire entendre que les deux sexes ne doivent pas être rangés précisément sur la même ligne dans la grande échelle des êtres, et qu'il faut placer un sexe au-dessous de l'autre. Il faut répondre, ce n'est point là du tout la pensée du législateur des femmes. Dans le plan qu'il s'est tracé de la nature, il n'y a pas un seul être inférieur à un autre. Toutes les productions sorties de ses mains sont autant de chefs-d'œuvre. Et parmi une infinité de chefs-d'œuvre, il serait absurde d'établir ou de supposer des préférences. Les deux sexes sont parfaitement égaux, c'est-à-dire aussi parfaits l'un que l'autre dans ce qui les constitue. Rien dans la nature, n'est comparable à un bel homme qu'une belle femme. Ajoutons, pour finir, il n'y a rien de plus laid au monde qu'un homme singeant la femme, si ce n'est une femme singeant l'homme. Ce projet de loi ne pouvait paraître plus à propos qu'au moment où l'on s'occupe de l'organisation définitive des études. Vous remarquerez que dans son rapport si estimable sur l'instruction publique, Chaptal garde le plus profond silence touchant les femmes. Il ne leur suppose aucunement la nécessité d'apprendre à lire, à écrire, etc. Partagerait-il l'opinion que leur esprit naturel n'a pas besoin de culture? Nota. Celles d'entre les femmes qui prendront à cœur ce projet de loi pourront se permettre les réclamations et sont invitées à les adresser au rédacteur. Il s'empressera d'y faire droit autant que possible. Mais il prévient qu'il ne répondra aux injures que par son silence accoutumé. Des injures ne sont point des raisons. Aux femmes. Si l'on vous interdit l'arbre de la science, conservez sans regret votre douce ignorance, gardienne des vertus et mère des plaisirs, à des jeux innocents, consacrez vos loisirs, etc. Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Motif de la loi. Considérant, premièrement, que l'amour honnête, le chaste hymen, La tendresse maternelle, la piété filiale, la reconnaissance des bienfaits, etc., sont antérieures à l'invention de l'alphabet et de l'écriture et à l'étude des langues, ont subsisté et peuvent encore subsister sans elles. Considérant deuxièmement les inconvénients graves qui résultent pour les deux sexes de ce que les femmes sachent lire. Considérant troisièmement qu'apprendre à lire aux femmes est un hors-d'œuvre, nuisible à leur éducation naturelle, c'est un luxe dont l'effet fut presque toujours l'altération et la ruine des mœurs. Considérant quatrièmement que cette fleur d'innocence qui caractérise une vierge commence à perdre de son velouté, de sa fraîcheur, du moment que l'art et la science y touchent, du moment qu'un maître en approche, la première leçon que reçoit une jeune fille est le premier pas qu'on l'oblige à faire pour s'éloigner de la nature. Considérant cinquièmement que l'intention de la bonne et sage nature a été que les femmes, exclusivement occupées des soins domestiques, s'honoreraient de tenir dans leurs mains non pas un livre ou une plume, mais bien une quenouille ou un fuseau. Considérant sixièmement combien une femme qui ne sait pas lire est réservée dans ses propos, pudibonde dans ses manières, parcimonieuse en paroles, timide et modeste hors de chez elle, égale et indulgente. Combien, au contraire, celle qui sait lire et écrire a de penchants à la médisance, à l'amour-propre, au dédain de tous ceux et de toutes celles qui en savent un peu moins. Considérant septièmement combien il est dangereux de cultiver l'esprit des femmes, d'après la réflexion morale de La Rochefoucauld, qui les connaissait si bien, l'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Considérant, huitièmement, que la nature elle-même, en pourvoyant les femmes d'une prodigieuse aptitude à parler, semble avoir voulu leur épargner le soin d'apprendre à lire et à écrire. Considérant, neuvièmement, que le joli babil des femmes dédommagera avec usure de l'absence de leur style. Considérant, dixièmement, que chaque sexe a son rôle, celui de l'homme étant d'instruire et de protéger, suppose une organisation forte dans toutes ses parties, le rôle de la femme doit être bien moins prononcé. Douceur et sensibilité en sont les deux principaux caractères. Tous ses droits, tous ses devoirs, tous ses talents se bornent là, et ce lot vaut peut-être bien d'autres. Galerie des femmes célèbres. Considérant onzièmement que la société civile dans la distribution de ses rôles n'en a donné qu'un passif aux femmes, leur empire a pour limite le seuil de la maison paternelle ou maritale. C'est là qu'elles règnent véritablement. C'est là que, par leurs soins journaliers, elles dédommagent les hommes des travaux et des peines qu'ils endurent hors de leur foyer. Compagnes tendres et soumises, les femmes ne doivent prendre d'autre ascendant que celui des grâces et des vertus privées. Et ce plan de conduite, conforme à la nature, a constamment rendu heureuses celles qui ont eu le bon esprit de ne pas porter leur vue plus haut. La félicité du genre humain repose toute sur les mœurs domestiques. Galerie des femmes célèbres. Considérant douzièmement que les hommages que le premier sexe s'est fait une douce habitude de rendre à l'autre ne sont point adressés au savoir des femmes, mais seulement à leurs grâces et à leurs vertus. Considérant treizièmement que les femmes qui se targuent de savoir lire et de bien écrire ne sont pas celles qui savent aimer le mieux. L'esprit et le talent refroidissent le cœur. Considérant, quatorzièmement, que la coquetterie d'esprit est dans les femmes un travers qui, comme l'autre coquetterie, mène au ridicule et quelquefois au scandale. Considérant, quinzièmement, que si la belle Aspasie n'eût point été à la hauteur des lumières acquises de Périclès. Périclès, ne voyant en elle qu'une femme aimable, destinée au délassement d'un homme d'État, Athènes n'aurait point achevé de perdre ses mœurs sous le gouvernement tacite d'une courtisane. Considérons, 16e, que si Louise l'Abbé ou la belle Cordière de Lyon n'avaient point eu la manie des vers, la chronique du temps ne se serait point hasardée de signaler ainsi cette femme. Elle avait une prédilection particulière pour les poètes et les savants, les préférant aux grands seigneurs, et leur faisant courtoisie plutôt gratis qu'aux autres pour grand nombre d'écus. Aussi leur communiquait-elle privément les pièces les plus secrètes qu'elle eût. Considérant, 17, que Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV, aurait été moins galante si elle n'avait pas su écrire. Une femme qui tient la plume pense être en droit de se permettre plus de choses que toute autre femme qui ne connaît que son aiguille. Considérant, 18, que si Catherine de Médicis n'avait point su lire, il n'y aurait point eu en France de journée de la Saint-Barthélemy. Considérant, 19, que si la duchesse de Longueville n'eût été qu'une bonne ménagère, sans culture et sans lettres, elle n'eût point abusé de son ascendant sur le grand Turenne, au point de faire tourner la tête et les armes de ce général contre sa patrie. Considérant, 20, que si l'on n'eût point appris à lire aux femmes, celle de l'hôtel de Rambouillet ne se serait pas donné le ridicule ineffaçable de préférer voiture à Corneille et Pradon à Racine. Ce qui prouve en même temps que les femmes qui savent lire ne sont pas, en fait de littérature, meilleurs juges que les autres. Considérant, 21, que si Madame Guyon s'était contentée d'être jolie sans apprendre à lire, elle n'aurait point égaré le beau génie de Fénelon. Le cœur seul du plus sensible de tous les prélats se serait permis une tendre faiblesse. Considérant, 22, les risques qu'encourt une jeune fille livrée aux leçons d'un grammairien peu sage, on ne trouve plus des origines d'humeur à cesser d'être homme pour apprendre impunément à lire aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'Alexandrie. Considérant, 23, combien la seule conjugaison du verbe « amo » « j'aime » a occasionné de chutes. Considérant, 24, combien une jeune fille qui sait lire a de peine à résister à la tentation de jeter les yeux sur les lettres d'amour d'un séducteur éloquent. Considérant, 25, combien les romans et les ouvrages de dévotion font de ravages dans le tendre cerveau des femmes. Considérant, 26, combien la lecture est contagieuse, sitôt qu'une femme ouvre un livre, elle se croit en état d'en faire. Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Molière. Considérant, 27, que l'érudition de Madame Dacier la fit changer de sexe, elle oublia dans ses discussions savantes toute l'aménité du sien. Considérant, 28, que la culture des lettres n'eut pas le pouvoir d'adoucir l'humeur violente, le caractère emporté, et le brusque abord de Mademoiselle de Gournay, la fille d'alliance de Michel Montaigne. Considérant, 29, que si Madame de Lassuse n'avait point été poète, nous aurions quelques jolis vers de moins, mais elle n'aurait point donné à ses contemporains et à la postérité le contagieux exemple d'un ménage en désordre à force d'esprit. Considérant, 30, que Madame de Villedieu, veuve de 3 maris et auteur de 12 volumes, n'en fut pas moins galante, les muses ne lui apprirent pas à mettre plus d'harmonie dans sa conduite. Considérant, 31, que, pour l'ordinaire, une femme perd de ses grâces et même de ses mœurs à mesure qu'elle gagne en savoir et en talent. Pour peu qu'elle sache lire et écrire, une femme se croit émancipée, et hors de la tutelle où la nature et la société l'ont mise pour son propre intérêt. Considérant, 32, que la cause supprimée, l'effet tombe de lui-même, ainsi, les femmes ne sachant plus lire, ne nous offriront plus le risible travers de ces diplomates femelles, qui, du fond d'un boudoir, le publiciste à la main, disposent des empires, font la part au roi, aux républiques, etc. Considérant, 33e, que la qualité de femme qui sait lire n'ajoute rien aux titres sublimes et touchants de bonne fille, bonne épouse et bonne mère, ni aux moyens d'en remplir les devoirs doux et sacrés. Considérant, 34e, que la place d'une femme n'est point sur les bancs d'une école, encore moins dans une chaire de théologie, de physique ou de droit, comme il s'est vu plus d'une fois à Bologne en Italie. Considérant, 35e, que le cardinal Barbarigo ne voulait jamais permettre à la savante Hélène Lucrèce Pispocchia Cornara de se faire recevoir, membre de l'université de Padoue, persuadé qu'il était, qu'un chapeau de fleurs ou de plumes sied beaucoup mieux sur la tête d'une femme qu'un bonnet de docteur. Considérant, 36e, que les femmes, ayant reçu une organisation physique plus frêle et un caractère moral moins décidé que les hommes, l'étude des lettres n'est pas un puissant moyen de donner de la force et de l'énergie. De l'aveu des philosophes eux-mêmes, les lettres énervent quand elles ne corrompent point. Fénelon a dit « Les femmes ont, d'ordinaire, l'esprit encore plus faible que les hommes. Voyez son traité de l'éducation des filles. » Considérant, 37e, que les femmes les mieux instruites, les plus savantes, n'ont jamais enrichi les sciences et les arts d'aucune découverte. Il n'y a jamais eu de femme inventrice, dit Voltaire dans ses questions encyclopédiques. L'invention de la gaze n'est même pas due à une femme. Considérant, 38e, que, quoi qu'on en ait dit, l'esprit et le cœur ont un sexe, comme le corps, dans la dépendance duquel ils sont tous deux, le moral et le physique étant unis d'une intimité si étroite qu'ils ne font qu'un. Considérant, 39e, la mort précoce de plusieurs jeunes filles que leur mère avait condamnées à l'étude des langues et à d'autres sciences, toutes aussi peu compatibles aux forces et aux goûts naturels d'une jeune personne. Considérant, 40e, que presque toujours, quand les femmes tiennent la plume, c'est un homme qui la taille. Le mathématicien Clairaut rendit ce service à Madame du Châtelet. Colletet faisait les vers de sa servante, devenue sa femme. Considérant, 41e, que les femmes, n'étant assujetties à aucune charge publique, à aucune fonction administrative, n'ayant pas même droit au fauteuil de l'Institut, elles n'ont nul besoin de savoir lire, écrire. Considérant, 42e, que les femmes ont trop d'occupations dans leur ménage pour trouver du temps de reste et à perdre en lecture, écriture. Considérant, 43e, que les 12 fonctions de la vie privée sont assez multipliées pour occuper tout entière une femme de mérite, et que celle qui embrasse la profession d'écrire n'est pas moins ridicule que ces soldats qui, pendant les loisirs de la caserne, prennent l'aiguille de la marchande de mode ou le tambour de la brodeuse. Galerie universelle des hommes illustres, article Voltaire, note. Considérant, 44e, qu'il y a scandale et discorde dans un ménage quand une femme en sait autant ou plus que le mari. Considérant, 45e, combien il doit être difficile le ménage d'une femme qui fait des livres uni à un homme qui n'en sait pas faire. Considérant, 46e, combien la première éducation des enfants, nécessairement confiée à leur mère, souffre quand la mère est distraite de ses devoirs par la manie du bel esprit. La couvée est mal tenue quand la poule veut chanter aussi haut que le coq, dit un vieux proverbe. Considérant, 47e, que l'art de plaire et la science du ménage ne s'apprennent pas dans les livres, l'art d'aimer d'Ovid n'a rien appris aux femmes. Considérant, 48e, combien il est ridicule et révoltant de voir une fille à marier, une femme en ménage ou une mère de famille enfiler des rimes, coudre des mots et pâlir sur une brochure, tandis que la malpropreté, le désordre ou le manque de tout se fait sentir dans l'intérieur de la maison. Considérant, 49e, qu'une femme, pour ne point savoir lire, n'en est pas moins estimable, moins digne d'être aimée, moins en état de remplir toutes ses obligations d'épouse, de mère, de parente et d'amie. Au contraire, qu'un époux de bon sens trouve plus de véritable jouissance auprès d'une femme naturelle et sans lettres qu'avec une autre remplie de prétentions au savoir et aux applaudissements. Considérant, 50e, combien un maître de maison jaloux de remplir les devoirs de l'hospitalité est confus quand il a pour épouse et compagne une femme plus occupée de livres et de manuscrits que des détails du ménage. Tout s'y fait mal ou mal à propos, la table est mal servie, le lit est mal dressé, et le voyageur en partant plie les épaules et se dit tout bas « Que les dieux me préservent d'une maison dont la maîtresse sait lire. » Considérant 51e, qu'une femme peut se passer de savoir lire pour savoir vivre, pour être polie et prévenante envers les étrangers, pour faire les honneurs d'une table, pour être l'âme d'une fête, pour donner un sage avis dans une assemblée de famille, pour calmer les emportements d'un mari, pour ramener à la sagesse un fils égaré, ou une fille surprise par un suborneur, etc., etc. Considérant 52e, combien les femmes deviennent négligentes, paresseuses, hautaines, exigeantes, acariâtres, peu soumises, pour peu qu'elles sachent lire et écrire, combien est insoutenable celle qui vise à l'esprit et au savoir, celle qui parle comme un livre. Voyez le 6e considérant. Considérant 53e, que depuis qu'on rencontre dans toutes les professions des femmes qui savent lire, la nourrice fait jeûner son nourrisson, la marchande néglige son comptoir et la cuisinière son service. L'ouvrière commence plus tard et finit plus tôt sa journée. La coiffeuse distraite brûle la blonde chevelure de sa dame. La garde malade et l'épicière droguiste tuent leur malade par des quiproquos. Et la jeune fille, devenue raisonneuse, dit que sa maman radote et traite son papa de bonhomme. Considérant, 54e, que si jamais les femmes n'avaient su lire ni écrire, Juvénal, Molière et Boileau ne se seraient point armés contre elles des verges de la satire. Considérant, 55e, que si jamais les femmes n'avaient osé porter la main à l'arbre de la science, Salomon ou Saint-Paul n'auraient jamais trouvé de motif pour parler d'elles en ces termes, « Melior est iniquitas viri, quam mulier benefaciens ». Considérant, 56e, que le sage Salomon qualifie de femme forte non pas la femme esprit fort ou bel esprit, mais celle qui emploie avec intelligence le lin et la laine, tourne le fuseau et donne par année 2 paires d'habits à ses serviteurs des deux sexes, ce sont les propres termes de la Sainte Bible. Considérant, 57e, que dire son chapelet est aussi méritoire devant Dieu que de lire son office du matin et de l'après-midi. Considérant, 58e, que dans les premiers temps, la lecture de la Bible elle-même était interdite aux Juives, c'est pour cela qu'on ne leur apprenait point à lire. La sage Noémie et sa fille, la touchante Ruth, ne savaient point lire. Ruth dut la main de Boaz à son aimable ignorance. Considérant, 59e, que la fille d'Oedipe, la sensible Antigone, n'eut pas besoin d'apprendre à lire pour devenir le chef-d'œuvre de la piété filiale. À sa place, la savante Sappho n'eut probablement pas été la compagne aussi assidue, aussi imperturbable de son malheureux père. Considérant, 60e, que Sappho eût conservé sa réputation si elle n'eût jamais su écrire, du moins on n'aurait jamais parlé d'elle au grand scandale de son sexe. Considérant, 61e, que les femmes beaux esprits consentirait difficilement à suivre l'exemple de la jeune Erin, cette contemporaine de Sappho, mais plus sage, pour ne point fâcher sa mère, ne se permit de composer qu'un seul poème, dont le sujet était l'éloge de la quenouille. Considérons, 62e, que, chez les sages égyptiens, sur les bords du Nil, on ne voyait pas, comme sur les rives de la Seine, les femmes sortir de leur maison et quitter le berceau de leurs enfants pour aller apprendre à lire à l'école d'un pédant ex-moine. Considérant, 63e, que les Amazones, dont pourtant il faut blâmer et repousser l'institution martiale si étrangère aux mœurs naturelles des femmes, les Amazones, qui étonnèrent les héros de leur temps par une bravoure égale à la leur, ne savaient pas lire. Considérant, 64e, que les vierges lacédémoniennes, dans des ballets décents, savaient enflammer le courage des jeunes spartiates et ne savaient pas lire. Considérant, 65e, que parmi les occupations des femmes des héros de l'Antiquité, on leur recommandait avant tout de faire de la toile. Dans Homère, elles mettent leur vanité, non pas à savoir lire ou écrire, mais bien à filer. Théocrite, pour donner une haute idée de la belle Hélène, dit qu'elle filait mieux que toutes ses femmes. Considérant, 66e, que Pénélope, si fidèle à son mari voyageur, savait, en tissant jour et nuit, repousser les amants qui l'assiégeaient et ne savait pas lire. Considérant, 67e, qu'Andromaque, l'épouse du vaillant Hector, si touchante dans Homère, quand elle fait ses adieux au héros son époux, ne savait pas lire. Considérant, 68e, que la princesse Nausicaa, la fille du roi Alcinous, lavait elle-même les habits de son père et ne savait pas lire. Si elle avait su tenir la plume, peut-être que la princesse royale eût dédaigné de lever le battoir. Considérant, 69e, que les Sabines n'eurent pas besoin de savoir lire pour réconcilier sur le champ de bataille les deux peuples féroces auxquels elles appartenaient par le sang et par l'hyménée. Considérant, 70e, que la chaste Lucrèce, qui se poignarda pour ne point survivre au déshonneur du lit conjugal, ne savait pas lire. Les fils de Tarquin la trouvèrent chez elle, et bien avant la nuit occupée au milieu de ses femmes à travailler de ses mains à des ouvrages de laine. Considérant, 71e, Corinthe, pour ramener au devoir de leur sexe les dames de Rome, leur propose les Sabines, excellentes ménagères, qui ne savaient pas lire. Considérant, 72e, que cette Romaine, qui allaita sa mère condamnée à mourir de faim dans un cachot, ne savait pas lire. C'était une femme du peuple, humilissime plébée, dit Pline le naturaliste. Le Sénat romain lui décerna une statue. Les mêmes honneurs ne furent point rendus à Sulpicie, faiseuse de satire. Considérant, 73e, que, quand l'archange Gabriel descendit du firmament pour annoncer à Marie, l'épouse de saint Joseph, la conception d'un dieu dans ses flancs virginaux, Gabriel ne surprit point la bonne Vierge faisant une lecture. Elle réparait les choses de son époux, car son ignorance avait trouvé grâce devant le Saint-Esprit. Considérant, 74e, que Mahomet, qui aimait tant les femmes, ne voulait point qu'elles sussent lire, plus sage en cela que son malheureux prédécesseur. Voyez l'évangile des deux sœurs Marthe et Marie selon saint Luc, chapitre 10, verset 38. Les épouses de Mahomet et la célèbre Fatime, sa fille, ne savaient pas lire. Il n'est pas même bien prouvé que Mahomet lui-même sut lire. Son ignorance n'empêcha pas qu'il ne devint le fondateur d'une grande religion. Considérant, 75e, que la reine Zénobie, moins savante, eût été moins ambitieuse, et par conséquent n'eût jamais consenti qu'on assassinât son époux. considérant, 76e, que nos Gauloises, toujours consultées utilement par nos bons aïeux dans les affaires les plus délicates, les plus épineuses, ne savaient pas lire. Considérant, 77e, que Charlemagne, qui le premier en France ouvrit des écoles, en législateur profond, n'y appela point les femmes. Et cet empereur roi prêcha l'exemple. Il ne donna à ses filles d'autre éducation que celle de coudre et de filer. Considérant, 78e, que dans les siècles brillants de la chevalerie, époque si honorable et si glorieuse pour les femmes, elles n'avaient pas besoin d'apprendre à lire pour inspirer les braves. Il suffisait de leur beauté et de leur vertu. Considérant, 79e, que Jeanne d'Arc sut bien délivrer la France sans savoir lire. Considérant, 80e, qu'avant cette héroïne, la bergère de Nanterre qui sauva Paris en trouvant grâce devant Attila, Geneviève, ne savait pas lire, quoiqu'un peintre niais les représentait, gardant ses moutons, l'évangile à la main. Considérant, 81e, que plusieurs d'entre les reines de France ne savaient pas lire, et ce ne furent pas les plus intrigantes. Madame de Maintenon, qui avait des prétentions au savoir et à la politique, rapetissa, comme on sait, le génie de Louis le Grand, et compromit le salut de l'État. Considérant, 82e, que le cardinal de Retz un jour se désista d'une criminelle attaque, vaincu par les larmes d'une villageoise vertueuse. Le prélat n'eut peut-être pas même eu de combat à soutenir avec une fille lettrée. Considérant, 83e, que l'amour de la science n'a pas la vertu de réfréner les passions, témoin Christine, reine de Suède, qui fit assassiner son amant sous ses yeux dans la galerie de Fontainebleau. Considérant, 84e, combien la science mal digérée donne du bile. Antoinette Bourignon, l'une des femmes qui fit le plus de livres, fut par cela même l'une des femmes les plus maussades, les plus difficiles à vivre. Considérant, 85e, combien les charmantes lettres de Madame de Sévigné et les poésies gracieuses de Madame des Houlières ont fait de mauvaises copies. Considérant, 86e, que la belle Laure, dont les chastes appas firent tant d'impression sur le cœur de Pétrarque, et qui nous valut tant de beaux vers de ce poète sensible, ne savait pas les lire. C'était, disent les historiens, du temps et du pays, une pastourelle, naïve, qui ne savait que garder un troupeau. Considérant, 87e, que la belle et riche Marguerite Sarocchia, dame de Naples, aurait pu vivre longuement et être honorée de ses compatriotes, quelques talents en littérature lui inspirèrent tant de vanité qu'elle mourut jeune, flétrie par le chagrin et chargée du mépris public. Considérant, 88e, que si Milady Montaigue, l'épouse de l'ambassadeur anglais à Constantinople, n'eût su ni lire ni écrire, elle n'eût point dégradé les lettres en repoussant d'un style de corps de garde l'imputation vraisemblable que lui fit Pope d'avoir reçu les honneurs du mouchoir dans la caserne des Janissaires. Nous compterions un recueil de lettres curieuses de moins et une femme estimable de plus. Considérant, 89e, que les Américaines du Midi portent seules tout le poids du ménage et accouchent sans douleur. Elles seraient moins robustes, moins saines, moins laborieuses si elles savaient lire. Il est prouvé que les femmes auteurs sont moins fécondes que les autres. L'exemple de sainte Brigitte, mère de 12 enfants et auteure de 12 volumes, ne prouve rien. L'exemple d'une sainte n'est qu'une exception. Considérant, 90e, combien il est choquant, dans le langage ainsi qu'en morale, d'être obligé de donner aux femmes des qualifications masculines, telles que « Mademoiselle est auteur »,« Madame est amateur » ou bien « Les femmes beaux esprits n'ont pas un bon esprit ». Cette dissonance grammaticale tend à prouver que les femmes semblent abjurer leur sexe quand elles exercent les professions que ces mots désignent. Considérant, 91e, d'ailleurs, qu'empêcher les femmes d'apprendre à lire, c'est un grand pas de fait pour arrêter la multiplication des livres et pour opérer une salutaire réforme dans la littérature tombée en quenouille. Considérant, 92e, ce que les auteurs de la Galerie universelle des hommes illustres placent dans la bouche de Voltaire. Du moment que le sexe né pour plaire eut la prétention de vouloir instruire, la morale et la littérature allèrent en décadence. Galerie universelle, in quarto. Considérant, 93e, combien l'esprit naturel des femmes, qui ne demande point à être cultivé, baisse de son prix pour peu que l'art en approche, qui ne préfère aux airs factices du serin, au jargon étudié de la pie ou du perroquet, le chant libre et sans apprêt du rossignol. Considérant, 94e, qu'il n'est pas très nécessaire aux femmes d'apprendre l'ABC pour se former le jugement, puisque Molière se trouvait bien de consulter sa servante, laquelle ne savait pas lire. Malherbe aussi prenait l'avis de sa ménagère. Considérant, 95e, que dans les campagnes, beaucoup de fermières intelligentes gouvernent elles-mêmes l'intérieur et le dehors de la ferme sans savoir lire. Considérant, 96e, qu'une jardinière qui ne sait pas lire, mais qui, dans chaque saison, fait éclore les fleurs les plus brillantes, est préférable à ces dames occupées matin et soir de l'assortiment de leurs pensées. Considérant, 97e, que les femmes insisteraient en vain sur la nécessité d'apprendre à lire, puisque Du Guesclin lui-même, connétable de France, et le plus grand homme de son siècle, ne savait ni lire ni écrire, voire mémoire sur l'ancienne chevalerie. Considérant, 98e, que les femmes douées d'un bon esprit seront les premières à consentir la présente loi, quand elles en auront pesé les motifs dans leur sagesse et dans l'intérêt qu'elles inspirent, elles verront dans cette mesure urgente et nécessaire non pas une extension du despotisme viril, mais bien plutôt un rappel à la raison. Considérant, 99e, ce proverbe hébreu, « Toute l'habileté d'une femme est dans sa quenouille », et ce proverbe français, « Femme sage reste à son ménage », considérant, 100e, ce qu'on lit dans Aristote, la femme ne doit penser qu'à la conservation de ce qui se trouve dans l'intérieur de la maison, les économiques. Considérant, 101e, la solidité de ces paroles de Fénelon. Les filles qui ont de l'esprit s'érigent souvent en savantes et en précieuses. Elles lisent tous les livres qui peuvent nourrir leur vanité, et se remplissant l'esprit de je ne sais quelles idées chimériques, elles se gâtent même par là pour le monde. Éducation des filles, 1687. Considérant, 102e, le grand sens renfermé dans ces paroles du père Malebranche. C'est aux femmes à décider des modes, à discerner le bon air et les belles manières. Elles ont plus de science, d'habileté et de finesse que les hommes sur ces choses. Tout ce qui dépend du goût et de leur ressort, mais, etc., recherche de la vérité. Considérant, 103e, ce passage considérable de la première encyclopédie. On pourrait douter si l'étude des lettres ne coûte point aux femmes un peu d'innocence. Article femme in folio. Considérant, 104e, que des Matisse a dit d'après les anciens, la gloire d'une femme est de vivre ignorée, et de rester ignorante aurait dû ajouter des Matisse pour dire tout ce qu'il pensait. Considérant, 105e, de quel poids est cette autre citation de Michel Montaigne. La plus utile, la plus honorable science d'une mère de famille est la science du ménage. S'il est bien né, les dames me croient, elles se contenteront de faire valoir leurs propres et naturelles richesses. Que leur faut-il que vivre aimé et honoré? Elles n'ont et ne savent que trop pour cela. Essai, livre 3, chapitre 3. Considérant, 106e, ce qu'a dit Balzac, j'aimerais mieux avoir une femme qui eût de la barbe qu'une femme qui eût du savoir. Considérant, 107e, la valeur de ce mot de Saint-Évremond, on se défend d'une savante, mais on ne se défend point d'une femme. On a quelque estime sèche et stérile pour la capacité de l'une, mais le cœur s'allume pour les agréments de l'autre. Saint-Évremoniana. À Paris, il y a des femmes qui écrivent et qui font des livres. Les plus sages font des enfants. Idem, page 388. Considérant, 108e. En outre, l'autorité de ce passage tiré de la Bibliothèque des femmes, 1759. Partout, les lois, en réservant aux hommes la plume et l'épée, ont semblé borner le sexe au point du ménage. Considérant, 109e, l'autorité plus grave encore de Jean-Jacques Rousseau dans une note de sa lettre à D'Alembert, qu'il serait par trop dur de reproduire ici. Il nous sera plus doux de rapporter la citation suivante du plus éloquent des philosophes. Est-il au monde un spectacle aussi touchant, aussi respectable que celui d'une mère de famille, entourée de ses enfants, réglant les travaux de ses domestiques, procurant à son mari une vie heureuse et gouvernant sagement sa maison, etc. Considérant, 110e, la justesse de ce passage, la fluidité du sang et l'agilité des esprits animaux rendent les femmes incapables d'apporter une attention sérieuse à tout ce qui est un peu abstrait, et le dégoût qu'elles sentent pour tout raisonnement suivi prouve la délicatesse de leur imagination qui n'a pas la force de soutenir cet effort. Du Bel Esprit, 1695, Paris. Considérant, 111e, que quelqu'un a dit « L'étude et les livres ne servent qu'à rendre une femme insupportable », un écrivain plus moderne a encore dit « Le défaut du siècle est d'avoir le cœur sec et de tout faire avec l'esprit, défaut particulier aux femmes ». Considérant, 112e, ce qu'Homère met dans la bouche de Jupiter s'adressant à Vénus. Contentez-vous des jeux, des ris et des appâts. Présidez aux amours, Iliade 5. Mais n'étudiez pas, pourrait-on rajouter, en généralisant la citation et en l'appliquant à toutes les femmes. Renoncez, dit le continuateur d'Homère, renoncez à un dessein dont l'exécution surpasse vos forces, et reprenez dans l'intérieur de vos maisons et les toiles et les ouvrages propres à votre sexe. Quintus de Smyrne, traduction par Tourlet, 1800. Considérant, 113e, enfin la justesse et la convenance de ces bons vers. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache plusieurs choses. Former au bon humeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler sa dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur docte entretien et leur livre indé du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Molière.